Alors, ce soir, on va continuer à avancer. La perspective, c'est toujours quelque chose qui est sans perspective, puisque c'est justement le discours analytique. Alors, du coup, comment rendre compte de quelque chose de telle façon qu'on communique, puisque le discours analytique, c'est pas fait du tout pour communiquer. Alors, je vais repartir du cri de Munch, dont on a parlé la dernière fois, et en partant, j'interroge d'emblée que personne n'interroge, évidemment, puisque c'est comme ça que ça se passe. Non pas pourquoi il a appelé ça le cri, mais qu'est-ce que ça produit, le fait de nommer quelque chose. Alors, c'est important parce que justement, ce qu'on disait la dernière fois, dans le sillage de Lacan, c'est que ce tableau rend compte, en fait, du silence. Et non pas, effectivement, du cri. Alors, ce que qu'apprend l'expérience du discours analytique, c'est que le sens, hein, ce qui se définit comme tel, le sens dans lequel on est toujours, bien sûr, le sens permet de nommer des choses. Alors ça commence, les premières traces de tout ça, c'est dans la Genèse. Hein? Cette figure, on va dire, imaginaire, que l'on va appeler Dieu, cette figure imaginaire va être celle qui va nommer, notamment les animaux. Bon. Autrement dit, si vous suivez un peu la langue, je force un peu les choses, mais si vous écrivez N'HO2ME, nommer, vous voyez que la question de la nomination est une façon de rendre compte de ce que c'est qu'un homme, pas au niveau de l'état civil, hein. Donc pas l'homme opposé à la femme dans l'état civil, mais une fonction, on pourrait dire, où l'homme se tire son épingle du jeu. Quel jeu? Du jeu qu'on appelle le jeu phallique. Alors c'est compliqué, c'est pas du tout ce qu'on appelle phallique habituellement. Hein? Phallique, apprendre du côté justement du sens. Bon, je reviens donc sur le fait que il y a du sens et que ce sens sert à nommer des choses. Et ce que l'expérience du discours analytique peut montrer, c'est le fait que ce processus qu'on connaît là, hein, ce que je viens de décrire, ça, on n'arrête pas, c'est assez facile à penser, ce que je viens de dire, hein, le sens pour nommer les choses, si on suit la langue, eh bien se nommer, ça renvoie à la dimension de l'homme avec un grand H, on va dire, comme ça, hein, et tout ça, c'est, eh bien, l'homme, on peut dire, singe Dieu. Dieu étant cette figure même que l'homme a imaginée. Dans une bulle. Hein. Alors pourquoi ça? Ben, simplement parce que il y a à dire que la nomination, je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est simplement attirer votre attention là-dessus, la nomination, elle part d'un du fait qu'elle repose, c'est même pas le bon mot, elle repose, elle est en quelque sorte dictée, on pourrait dire, mais pas dictée consciemment, hein, par ce qu'on appelle le réel. Le réel qui, lui, ne peut pas être pris dans le sens. Alors, vous voyez, l'opération qui peut se passer chez un jeune garçon, chez un jeune enfant, hein, comme c'est compliqué d'arriver à parler, hein, hein, on parle de quelque chose qui est en dehors du sens, qui est même dans une réticence totale, et ce quelque chose qu'on appelle avec Lacan le réel, et qui est un impossible, justement, impossible. Impossible, ça ne veut justement pas dire que ça n'existe pas. Cet impossible-là, de cet impossible, advient la nomination et le sens. Le problème, bien sûr, c'est qu'est-ce que le sens et la nomination, j'ai parlé de singerie tout à l'heure, qu'est-ce que le sens et la nomination viennent singer ? Hein ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient recouvrir ? Voilà. Alors, réponse par rapport à ce que je viens de dire, ça vient recouvrir ce qu'on appelle la dimension du réel. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'écrit et la lettre. La lettre. Parce que si vous prenez une lettre, justement, ça n'a pas de sens. Que ça soit une consonne, une voyelle, il n'y a pas de sens. Mais ça ne suffit pas de dire comme ça. Bon. Alors, à partir de là, effectivement, quand Edouard Munch nomme son tableau, il recouvre quelque chose. C'est logique. Tout tableau nommé recouvre, donne du sens, et donc est du sang blanc. Un sens blanc. Et tous les sens du dictionnaire sont de l'ordre du sang blanc. Et on est dans le sang blanc tout le temps. Il n'y a pas à le déplorer. On est dans le sang blanc par rapport à ce quelque chose qui est le réel. Qui, lui, par contre, est la rencontre de la vérité. Et comme c'est impossible à penser, ben, il en résulte que la vérité, ça ne peut justement pas se dire. Comme étant la vérité. C'est-à-dire, je jure de dire la vérité. Toute la vérité, c'est automatiquement une parade dont on a besoin dans les échanges entre êtres parlants. Mais on sait bien que, de toute façon, je pense que les magistrats donnent raison. On sait très bien que la vérité, on ne peut pas la dire. Justement. Puisque si je dis je mens, est-ce que je dis vrai ou est-ce que je mens ? Voilà. Le paradoxe d'Épiménide le Crétois, il est d'emblée là, bien avant, je dirais, Jésus-Christ. Donc tout ça, c'est dans la langue, ces affaires-là. Alors, quand vous parlez sur un divan, notamment, il y a tout ça qui est en jeu, hein, qui tourbillonne autour. Hein. Il y a tout ce que vous pensez dire, etc. Ben oui, hein. Vous accrochez, c'est difficile à dire, etc. Mais il y a toute cette dimension-là, qui tourbillonne, c'est là, ça tourbillonne. On est dans le blabla, il faut bien passer par le blabla, c'est-à-dire parce qu'on a un peu le symbolique. Mais, c'est pas ça l'enjeu. Et pourtant, il faut passer par là. Alors, on en revient. Alors, ce tableau intitulé « Le cri », justement, eh bien, ce qui apparaît évident, ne serait-ce que parce que c'est un tableau, c'est que c'est un cri qu'on ne saurait pas entendre avec ses oreilles. On peut le poser comme ça, ou alors on peut dire quel est ce cri qui ne peut pas s'entendre avec les oreilles. Ou le mot important, c'est l'entendre. Et que je décentre le mot cri. C'est le cas de le dire. Voilà un peu le... Donc on avait parlé la dernière fois d'un certain nombre de choses. Alors je vais vous dire un peu ce que Edouard Munch, lui, l'a dit un peu avant sur son tableau, pour vous montrer justement ce qui compte. C'est pas du tout ce que le peintre, ce que le, je sais pas qui, moi, le créateur de l'opéra, etc., peut dire de son œuvre. C'est pas ça qui compte. C'est ce que quelqu'un peut entendre. Alors il dit, j'étais en train de marcher, c'est des notes dans un journal, le long de la route avec deux amis, le soleil se couchait, soudain le ciel devint rouge sang, j'ai fait une pause, me sentant épuisé, et me suis appuyé contre la grille. Il y avait du sang et des langues de feu au fond du fjord bleu-noir et de la ville. Mes amis ont continué à marcher, et je suis resté là, tremblant d'anxiété, et j'ai entendu un cri infini déchirer la nature. Voilà ce qu'on pourrait prendre comme support, là. Ce qui est pris comme support, après il y a toute une explication du tableau, on décompose, il y a les lignes comme ça, au fond c'est dans une autre... Enfin, on va décrire un certain nombre de choses, et évidemment, en général, on voit encore bien les oreilles qui sont bouchées comme ça par le... Hein, on voit encore bien ça. On voit bien qu'il y a une béance, là, au niveau de la bouche B. Mais on en reste toujours au niveau du sens et de la description. C'est-à-dire que cette nomination-là, comme toute nomination, il n'y a pas, sans, y a pas à vouloir que ça soit autrement, elle vient recouvrir, boucher justement, le trou du réel. Le trou du réel qui est dans le symbolique, qui est dans le blabla. Et ça se bouche notamment par ce qu'on peut voir, les différents plans, etc., les différentes couleurs, qui est une façon de parler de ce qu'avec Lacan on appelle l'imaginaire. Donc on peut retrouver là les trois registres, d'une certaine façon. À ceci près que l'important, effectivement, c'est le trou qui est là. Et on pourrait presque dire que tout vient s'engloutir dans la béance. Et pourtant, si on regarde le tableau, on n'est pas du tout obligé de penser. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas quelque chose qui se démontre. C'est quelque chose qui se montre. Un point, c'est tout. C'est pareil. C'est pareil qu'une équivoque sur un mot. Rien à dire, c'est quelque chose comme ça qui sort tout d'un coup. Et voilà, on le prend en compte ou pas. Et si on le prend en compte, qu'est-ce que ça veut dire le prendre en compte? Et quel effet ça va produire? Un mot d'esprit, par exemple. Hein? Donc, cette dimension-là, qui est tout à fait intéressante, quand Lacan veut parler de ce qu'il appelle la dimension de l'autre, du grand A, c'est-à-dire du langage. Je me suis trompé peut-être la dernière fois, c'était en 1965, c'est en mars, le 17 mars 65, dans son séminaire, il distribue des reproductions de ce tableau à l'assistance, et il leur dit, regardez ce qu'il en est, voilà une des façons de parler de la dimension de l'autre, et notamment de ce quelque chose qui n'est pas le cri, mais qui est le silence. Ou alors, parlons du cri, mais à ce moment-là, ce n'est pas un cri qui vient interrompre le silence. Habituellement, on a dans l'idée, justement, imaginaire, que le cri, c'est quelque chose qui vient faire disparaître le silence. Eh bien, non seulement, alors, il ne suffit pas de retourner, il suffit, parce qu'on pourrait dire, le silence, justement, vient du cri, ce qui change déjà la perspective, mais il importe, et là c'est en quelque sorte un peu annoncé par toutes ces courbes qui sont présentes, et mais on ne peut pas aller au-delà, il ne faut pas demander au tableau d'en dire plus au niveau de ce qui figure, au niveau de la figuration, puisque ce dont nous sommes partis, à partir du réel, c'est que ce qu'il y a de plus intime en nous-mêmes échappe à la figuration. Donc toute œuvre d'art transmet ce quelque chose qui échappe à la figuration, donc à la pensée. Même si on peut distinguer des périodes plus ou moins figuratives, c'est pas le problème. Allez, là, immédiatement après, la personne qui a fait un commentaire, c'est une composition qui appartient au domaine de l'art figuratif. C'est vrai. Elle possède un point de fuite situé à gauche, une grosse bande verticale, etc., long du tableau à droite. Bon, on décrit. Hein. Bon. Alors, on laisse ça de côté parce que il y a autre chose qui est présent. Et c'est pas caché du tout. Comme un mot d'esprit, c'est pas caché. Il ne demande qu'à sonner, le mot d'esprit. Il faut qu'il trouve l'interprète qui le fasse sonner. Donc, c'est pas du tout caché. C'est pas dans des profondeurs. Hein, cette conception de l'inconscient qui serait cette psychologie des profondeurs. Pas du tout. Bon. Alors, il en résulterait, à partir de là, il en résulterait, si on prend en compte ce qu'on a dit là, parce qu'il faut vraiment partir de ce que j'ai dit au début, que ce tableau de 1893, que Munch appelle nomme le cri, hein, c'est pas le cri de Munch, hein, c'est un tableau qui est le cri, en fait, il pourrait s'appeler autrement. D'une part, ça ne changerait rien. Qu'est-ce que ce tableau, en lui-même, peut transmettre de cette dimension du réel dont on a parlé? Puisque c'est cette dimension d'impossible du réel qui est toujours présente, mais d'une présence qui n'est pas celle de la consistance. La consistance, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on peut, qui permet d'expliquer toutes sortes de choses, là, mais qui relève de l'existence. Et vous voyez, dans le verbe apparaître, pour ceux qui ont entendu parler, l'existence de pas de Dieu. Hein? C'est qu'on a placé cette figure-là, nous là, les petits singes nommants, on a placé cette figure-là comme étant justement celle qui existe et ailleurs, ex, ça veut dire en dehors. Sistere, ça veut dire être assis, être là, être présent, hein, celle qui existe. Or, ce dont il s'agit, c'est ce qui existe au sens, à la nomination. Il y a quelque chose qui existe à la nomination. Et c'est autour de ça qu'on n'arrête pas de parler, sans le savoir, sur un divan, ou en face à face, pas de problème, hein, on n'arrête pas de parler de ce quelque chose, mais comment on fait? Ben, bien sûr, on fait comme on sait, du côté du sens, c'est-à-dire par ce qu'on appelle par déplacement. C'est-à-dire qu'on a une certaine distance. Comme là, si on se met à décrire le tableau, c'est pareil. Après tout, on pourrait dire, voilà, ça c'est un rêve, j'ai rêvé que, etc., tout ça, voilà, voilà, il y avait ça, puis ça. C'est quand on dit, mais à quoi ça vous fait penser? Tel élément du rêve. Et ce qui est attendu, c'est quoi? C'est qu'en parlant du rêve, eh bien, il y a justement quelque chose du réel qui, tout à coup, vient télescoper ce qu'on est en train de dire, ce quelque chose de la béance, là, qui va faire que le mot va sortir de travers. C'est ça qui est attendu, en fait. Mais il faut bien passer par le sens. Il n'y a pas d'autre solution. On est dans ce sens blanc, dans ce semblant. Hein? Si j'ai parlé de singe, ce n'est pas du tout de façon péjorative. C'est parce qu'il n'y a pas tellement de différence, finalement, entre l'homme et le singe. Hein? Bon, il y en a, mais enfin, c'est peut-être pas, surtout, pas toutes les périodes, ça a été comme ça. Hein? Vous voyez que toute la dimension de la communication, ça vise quand même à singer. Hein? Et Dieu sait si c'est prégnant. Hein? Bon, alors, je reviens là. Je reviens à l'aberrance. Pour dire que, bien sûr, je bouche les oreilles, on peut penser qu'il y a quelque chose qui ne veut pas entendre. On repart dans l'imaginaire, hein, cette partie. Et voilà. Mais il faut bien passer par là. Hein. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que cet être-là? Ça ressemble à quoi, ça? C'est un homme, c'est une femme, c'est un adolescent, c'est un... C'est quoi? C'est un être complètement asexué, on ne sait pas ce que c'est. Bon. Donc il y a déjà quelque chose là qui dérange un peu. Et si on se focalise effectivement, si on est pris par ce qui est au premier plan, et non pas par la description des lignes, comme ça, tout bien, etc., alors on va peut-être pouvoir entendre quelque chose. Parce qu'effectivement, il s'agit bien d'entendre. Entendre quoi? C'est comme ça que Lacan va introduire la dimension du silence. Et bien montrer que le silence, ça n'est pas se taire. Ceci, on le sait depuis longtemps. Enfin, ça a été décrit il y a déjà pas mal de temps. Hein. On trouve ça avec des auteurs latins, Claude, par exemple. Et ce que les artistes, les acteurs savent bien, c'est que le silence est quelque chose qui se crée en parlant. Ah, j'avais un truc là. Là, pour le moment, par exemple. Se crée en parlant. Donc c'est quelque chose qui a à voir, et là on avance un peu, avec la voix. Enfin, du moins, c'est la piste qu'on va prendre. Bien. Alors, si on voulait aller un peu plus dans le sens du tableau, là, on pourrait dire que dans cette béance, puisque tout est articulé à ça, dans cette béance, ce qui sort de cette béance, c'est quelque chose qui n'a rien à voir, parce que bien sûr, s'il y a une béance, ça peut aller dans les deux sens, hein, qui n'a rien à voir avec ce qui rentre. Dans la mesure où ce qui peut en sortir, eh bien, on est toujours en retard, puisqu'on n'entend pas. Et puis, ce qui est rentré, eh bien, on n'a pas pu le saisir non plus, puisqu'on n'entend pas. C'est-à-dire que ce que l'on peut dire, c'est que le silence vient se... Je cite Lacan, se pelotonner dans la béance. Mais au moment où le silence pourrait être perçu, il est déjà plus là. Voilà, d'ailleurs. Impossible à enregistrer. Quand on fait un CD ou un DVD, bien sûr qu'on enregistre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas enregistrer. Pourtant, c'est présent par rapport à ce qu'on a enregistré. C'est ça que je suis en train de dire d'une certaine façon. De même dans la voix, bon, parce que c'est un peu pareil pour les instruments de musique, mais en fait, il y a plutôt quelque chose que je connais. Dans la voix, il y a quelque chose, effectivement, qui est présent, qui ne peut pas s'enregistrer. Et c'est comme ça que là, on peut rapprocher la question de la voix de ce que Munch a appelé un jour, comme ça, le cri. Mais ce n'est pas du tout parce que la voix crie, ça n'a rien à voir. J'insiste sur le fait qu'il y a que le silence et le cri qu'on ne peut pas entendre puisqu'il a déjà été émis. J'insiste bien là-dessus. Hein ? Ne sont pas dans le même temps. Ils ne sont pas dans le même espace. C'est-à-dire que non seulement ils ne sont pas dans le même espace, mais ils sont dans des espaces qui n'ont rien à voir entre eux. Et c'est à partir de là qu'on peut introduire, qu'on peut penser, vous voyez, qu'à l'horizon, loin, parce qu'il faut bien... Il faut bien comme ça qu'on... Du côté de l'infini, dire là, on ne peut plus rester dans un plan, dans la géométrie euclidienne, eh bien, à l'infini, effectivement, il y a quelque chose qui est de dimension du silence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas le... le saisir. Bon. Du temps de Descartes, 17e siècle, il y avait Comment appeler ça? Je pense que c'est un mathématicien, quand même. Je crois qu'il avait 4 ans depuis lui, ou c'était à peu près du même an. C'est presque le même nom, c'est Desargue. Et il a eu comme ça une idée un peu. Personne n'a retenu l'idée, hein. Ça, on a gardé les données Descartes, hein. Il a eu l'idée de dire que, finalement, si on pense la droite à l'infini, elle se courbe. Elle se courbe, c'est-à-dire que ça fait un. Ben, c'était quoi? Ben, ça fait une béance. Mais si je coupe la droite et que j'en fais deux bouts, il n'y a plus de droite infinie. Là, je retombe dans le plan. C'est-à-dire que le plan fini, descriptif, défini, délimité, n'a rien à voir avec le plan qui prend en compte l'infini. Rien du tout. Eh bien, c'est ça l'existence. C'est une façon de parler de l'existence. L'existence, c'est quelque chose qui ne peut pas être découpé en morceaux pour le saisir, décomposé, comme on dit. Ça n'a rien à voir avec aucun message. Et du coup, et ça remet en cause tout notre système, hein. Qu'est-ce que c'est que le corps? Ben, on a une conception idéique du corps. Idéique. Et voilà. Et ça date au moins de Platon. Alors la médecine a développé cette idée, cette conception idéique. Le corps, c'est ce qu'on voit. Pareil, c'est ce qu'on voit. Le problème, c'est que ça marche bien pour la science, ça marche aussi pour les chromosomes, parce que les chromosomes, ça permet de reproduire, hein, et ça va reproduire des corps du même acabit, hein, de toute façon, ils sont plus ou moins grands, plus ou moins, etc. Ils vont pouvoir bouger toujours de la même façon, on ne va pas se perdre, hein. On va rester dans le plan, l'imaginaire est bien solide, il n'y a pas l'infini du tout, hein, on ne va pas voir des trucs, même s'il y a du gigantisme, ça n'a rien à voir avec l'infini, ça reste dans le plan. Mais vous voyez que ce qui est en jeu là, tel qu'on en parle, c'est que le corps qui s'entend, c'est autre chose que ça. C'est autre chose que ce qu'on voit, que ce qu'on démontre, que ce qu'on découpe, que ce qu'on définit, que ce qu'on auscule, que ce qu'on examine, que l'on passe dans toutes sortes d'appareillages très développés. On peut passer, développer les scanners le plus possible, tout ce qu'on voudra, jamais on pourra scanneriser le réel. Jamais. C'est pas parce que c'est infiniment petit que c'est le réel. Parce que l'infiniment petit, c'est toujours dans le plan, même si c'est tout petit. Tous nos appareils de mesure ne peuvent pas prendre en compte ce dont on essaie de parler. Alors, bon, il me reste encore 5-10 minutes. Eh bien, là, on est en 1893. En janvier 1912, il y a quelqu'un qui va parler du cri. Il est au nord de l'Adriatique, il est au-dessus de la falaise. Il y a donc la mer qui est en contrebas. Puis au loin, à l'horizon, infini. Et ce poète s'appelle Rainer Maria Rilke. C'est le premier chapitre, la première élégie de Duino. C'est donc un Duino, c'est la première élégie. Et ça commence comme ça. Qui, si je criais, pourrait entendre, etc. Si je criais. Il y a 260 lignes de cette première élégie. Il en fera, je crois, une dizaine. Ça va prendre 10 ans. Mais cette première élégie est importante parce que c'est sa réponse C'est ce qu'il pense. Hein. C'est tellement important pour lui qu'il va dire que tout ce qu'il a écrit avant, ça n'a plus de valeur. À partir du moment où il fait ce poème, on va dire. Alors, il y a un contexte à nouveau, comme là, hein. Il y a un contexte historique, je ne sais pas ce que ça vaut. Hein. Le contexte historique, c'est simple, c'est depuis 15 ans, et il lui reste 15 ans à vivre, juste au moment de charnière, là. Hein. Et bien, il a fait connaissance de Andrea Salomé. Et Andrea Salomé, c'est pareil, hein. C'est une figure qui a inspiré, comme on dit les mecs, hein. C'est pareil, hein. Nietzsche a couru après pendant des années. Il y a des opéras qui sont... Wedekind a écrit une pièce, et puis ensuite de ça, il y a un opéra de Berg, etc., Lulu. Enfin, il a donc connu... il connaît Lou André Salomé, et Lou André Salomé, dans les mois qui ont précédé, a fait la connaissance de Freud. À un congrès, je crois que c'est à Munich, où Freud a parlé du président Schreber. Elle est rentrée dans le cercle des analystes du moment. Et comme c'est très compliqué pour elle d'être un peu dans une position, on va dire, d'être une femme, et puis aussi d'être une mère, c'est compliqué, c'est toujours compliqué cette affaire-là, elle est dans la position avec Rainer, elle lui a d'ailleurs fait changer complètement son prénom, hein. Il ne s'appelait pas Rainer, elle lui a dit un jour, maintenant tu vas t'appeler Rainer. Et lui, il a dit oui. S'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, mais elle a rajouté une lettre, je crois. Rainer, en allemand, ça veut dire propre. Hein? Pur. Alors, depuis deux, trois ans, Rilke envisage de faire une psychanalyse. Alors, il a trouvé l'analyste, un analyste qui s'appelle Gabe Sattel. Et ça traîne un peu, et à un moment, il en parle. Il est dans un lien de correspondance avec Lou André Salomé. Ils ont vécu ensemble, mais bon, il y a un moment, il fallait qu'ils se séparent. Ça devenait insupportable. Il y a déjà plusieurs années qu'ils sont séparés. Je ne vais pas tout raconter ça. Vous pouvez aller chercher ça où vous voulez, pour avoir des idées là-dessus. Et il lui annonce qu'il va faire une psychanalyse. Et il lui dit l'analyste. Et elle lui répond immédiatement... Télégramme et lettres, je t'interdis de faire une psychanalyse. Bon, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites là-dessus, mais je crois qu'on rêve aussi, c'est qu'on pense, hein, autour de ça. Ce qui est important, c'est que les élégies, et la première élégie notamment, ce cri dont on parle, hein, qui si je criais, hein, c'est une réponse. Mais une réponse qui, vous le voyez, pose la question, qu'est-ce que c'est crier? Puisque là, il écrit. Il écrit un poème. Donc, à nouveau, se pose la question de la nomination des mots, de la valeur des mots, et du sens qu'ils peuvent avoir. Eh bien, je crois que ce qu'on peut dire avec Rilke là, c'est, et qui évidemment ne fera jamais de psychanalyse, même si après, c'était le moment, puis après c'est fini. Hein. Il ne fera jamais de psychanalyse, qui va mourir 15 années plus tard. Et c'est après que André Salomé va dire un certain nombre de choses par rapport à ça. C'est que ces élégies, notamment cette première élégie de Guido, est une façon pour lui. Non pas de répondre au fait qu'il n'a pas pu parce que quelqu'un l'a empêché, ça encore la description du tableau, ça. Hein, hein. Je crois qu'en fait, c'est sa façon à lui de tourbillonner autour du trou. De mettre du blabla, mais qui est du blabla poétique, là, autour de cette béance. La seule chose qu'on peut faire, comme on ne peut pas arriver... à dire quoi que ce soit de l'aberrance, sauf qu'elle existe, hein, on a appelé ça dans la théorie freudienne, le refoulement originaire, Freud découvre ça dans le rêve, Il y a un trou radical dans le savoir de l'autre. On ne saura jamais ce qui en résulte ou quoi. Il en résulte que l'inconscient, c'est un savoir que je ne sais pas, que je sais. Voilà, c'est ça la définition. Donc c'est important, l'abhérence. Hein. Eh bien, il va donc en résulter que, à sa façon, il, lui, va trouver le symbolique poétique, c'est-à-dire trouver, qui va lui permettre de répondre en prenant en compte cette dimension du silence qui est présent dans le langage. Qui n'est pas dans les mots, hein, dans le langage. Si vous lisez, je vous encourage à lire cette première élégie, vous allez vous rendre compte un peu de la, à la fois de la compacité, de la complexité, mais aussi de ce qui coule. Il faut vraiment laisser aller les choses couler, parce que si on veut comprendre, on va sortir. La seule chose à comprendre, c'est seulement quand il dit, je le cite comme ça, c'est une paraphrase, que on n'est pas chez nous dans le monde interprété. Voilà, pof. On n'est pas chez nous dans le monde interprété. Alors c'est où chez nous? Voilà la question sur laquelle je vais m'arrêter aujourd'hui, non sans poser la question suivante. Ce qui tourbillonne, évidemment, autour de l'abhéance, ce qui tourbillonne quand je parle, quand vous parlez, ce qui est là, présent, ce symbolique qui est là, présent, quel rapport ça a à voir avec ce qu'on appelle, on va dire, la voix et cette chose qu'on apprend au début et qu'on apprend quand on commence à chanter, qui s'appelle la vocalise. Et comment la vocalise peut créer un corps à partir duquel une voix qu'on ne connaît pas peut chanter. Voilà, je m'arrête là-dessus.